Bonjour, je m'appelle Catherine et je vais vous lire un roman de Matisse qui s'appelle « Le bébé et le hérisson ». C'est publié aux collections, aux éditions Thierry Magnier dans la collection Petite Poche et on le trouve dans les deux bibliothèques de Blois. La soirée est calme. Pas d'éclat de voix et presque pas de bruit de moteur venant de l'extérieur. Il pleut et il fait froid. Chacun reste chez soi. Dans le salon, on attend l'heure du film. Papa et maman regardent la météo en buvant une bière. Manon vérifie pour la troisième fois les résultats de ses devoirs et moi, je feuillette mon livre d'histoire. Soudain, Léo se met à pleurer. Il a presque 5 mois et quand il pleure, celui-là, il y va à fond. Ses cris traversent le béton des murs et le bois des portes comme si c'était du papier. « Va dire à ton gosse de la fermer, » dit papa à maman. « Va lui dire toi-même, c'est toi l'homme, » répond maman. Papa monte le son. Mais quand Léo pleure, c'est aussi pénible que de regarder la télé avec quelqu'un qui passe l'aspirateur dans la même pièce. « Manon, » grogne papa. De mauvaise grâce, ma sœur s'en va bercer Léo. 5 minutes plus tard, elle revient nous annoncer ce que nous savons déjà. Elle n'a pas réussi à le calmer. Alors papa se met à dodeliner de la tête en maugréant de sa voix grave. « Oh, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible !» Puis il se lève d'un coup comme si un ressort géant l'éjectait du canapé. De la chambre du bébé, on l'entend crier. « Non, mais c'est pas fini, hein ? Ça suffit ! Je regarde la télé, moi !» Les cris de Léo se transforment immédiatement en hurlements. Ensuite, papa déboule, avec le couffin dans les bras. « Jules, la porte !»« La porte de quoi ?» je demande. « La porte de l'appartement, bougre d'âne !»« Mais elle est fermée, je dis. »« T'es idiot, pfff !»« Ou alors tu le fais exprès !»« La porte, ouvre la porte !» Je quitte ma chaise et je vais ouvrir la porte d'entrée. Mon père dépose le couffin sur le palier et menaçant Léo de son index, dit « Toi, tu rentreras quand t'auras fini de hurler !» Ensuite, il ferme la porte de l'appartement, puis celle du couloir et se replante devant la télé comme si de rien n'était. Léo pleure toujours, mais en sourdine maintenant. Le truc de mon père est efficace. Mais je suis un peu inquiet de savoir le bébé à l'extérieur de l'appartement. Il a peut-être faim, je dis. Toi, l'intellectuel, on t'a pas sonné, dit mon père. Il avait qu'à finir son biberon, ajoute ma mère. Et si quelqu'un l'emmène et le revend ? « Tu rigoles ?» s'exclame papa. « Personne n'osera enlever un bébé qui braille aussi fort. » fait maman, toujours à rire de tout, ces deux-là. Sauf que des bébés qui sont volés dans un pays et revendus dans un autre, je sais que ça existe. Et je trouve pas ça comique, moi. Le lendemain, en rentrant du collège, à peine sortie de l'ascenseur, la voisine du palier d'en face m'interpelle. « Jules !» elle chuchote. Sa porte légèrement entr'ouverte ne laisse voir que le côté gauche de son visage. « Jules, tu diras à tes parents que s'ils laissent encore pleurer le bébé sur le palier, je vais prévenir les services sociaux. »« Je leur dirai, madame, promis. » »« Mais je ne sais pas s'ils vont m'écouter. Hein. »« Merci, Jules. De rien. » Elle me regarde un moment sans cligner des yeux, puis referme sa porte très doucement. C'est une dame âgée, elle vit seule, et c'est peut-être pour ça qu'elle a la trouille de parler à mes parents. Dans l'appartement, maman est à fond dans son jeu vidéo préféré, une cigarette au bec. Elle se tortille comme si elle faisait elle-même les cascades de son personnage virtuel. À côté d'elle, hypnotisée par l'écran télé, Léo délaisse son biberon. D'une pièce à côté, sans doute une chambre, provient le vrombissement sourd de l'aspirateur. Ma sœur fait le ménage. Maman ?
Quoi ?
J'ai un truc à faire signer. Et tu vois pas que je joue ? Vois ça avec ton père.
Il est où ?
Sous la douche. Ah, il y a aussi la voisine qui m'a dit qu'elle allait appeler les services sociaux si on laissait encore Léo pleurer sur le palier. Là, ma mère met son jeu sur pause, elle tire sur sa cigarette et fait sortir la fumée par ses narines, exactement comme un taureau furieux de dessin animé. Mais de quoi est-ce mêle cette vieille peau ? Qu'elle fasse ça et je la balance du 6e. Quand tu la reverras, tu lui diras, hein ?
Ma mère, il vaut mieux être son amie que son ennemie.
D'accord, maman.
Bien sûr, je mens. Jamais je n'oserais parler de cette façon à notre voisine. Je vais à la cuisine et j'engloutis deux brioches molles. Puis, debout, le nez à la fenêtre, je sirote un grand verre de chocolat au lait froid. Au loin, un avion laisse une traînée blanche dans le ciel. Je me demande où il va. Je me demande qui sont ces gens qui voyagent en avion. Je me demande s'ils existent vraiment.
C'est pour le collège, demande papa en examinant la feuille que je viens de lui donner.
Oui, c'est le prof de français qui organise une visite dans un village du livre.
Un village du livre? La bibliothèque du collège, ça te suffit pas ou quoi?
Papa, ça n'a rien à voir, c'est juste une visite.
Une visite débile, oui. Payer 4 euros pour aller voir des bouquins. Mais à quoi ça va te servir dans la vie? T'as pas besoin d'aller là-bas.
Et il me rend la feuille.
Mais papa, toute la classe va y aller. Tais-toi!
Déjà que tu passes ton temps à bouquiner et que ça me plaît pas.
C'est vrai, ajoute maman, toujours aux commandes de son jeu. T'es pas souvent avec nous, hein.
Mais quoi mince, quand je lis, j'ennuie personne, je dis.
Ouais, mais ça nous plaît pas, continue mon père. Quand on est un homme, on passe pas son temps à lire comme une gonzesse.
Tu veux dire que quand on est un homme, on passe son temps devant la télé à boire de la bière comme un abruti, je demande.
La riposte est immédiate. Il y a un grand clac et ma joue gauche devient aussi chaude que de la lave en fusion.
Eh bien, celle-là, tu l'as pas volée, affirme mon père.
Mais je suis pas un voleur, j'ajoute, la voix tremblante, m'attendant à recevoir une seconde baffe. Mais rien ne se passe, alors je file dans ma chambre. Le cœur débordant de haine. Le crayon qui traîne sur la table, qui me sert de bureau, je le casse en deux. Ma règle en plastique de 30 cm, je l'explose. J'ai bien envie de tout démolir. Heureusement, mon regard s'arrête sur le livre que je suis en train de lire, posé sur mon lit défait. Il semble m'attendre. Je l'ouvre et au bout d'un chapitre, ma colère disparaît complètement. Je lis les 100 dernières pages d'une traite.
« T'es pas très futé pour un garçon, me dit Chloé. »
Tu devrais imiter la signature de ton père et te débrouiller pour payer le voyage avec tes économies.
Quelles économies, je demande?
En économisant sur ton argent de poche.
Moi, j'ai plein de poches, hein, mais pas d'argent. Hein.
C'est bête, hein?
Tes parents, ils te donnent pas d'argent de poche?
Non.
Elle me regarde intensément en fronçant les sourcils. Elle a pas l'air de me croire.
Je lui rends son regard et c'est elle qui baisse les yeux en premier. Nous continuons notre marche en silence jusqu'à son arrêt de bus. Le ciel est encombré de nuages sombres. J'ai bien fait de prendre mon anorak. Je vais sûrement avoir droit à la pluie en rentrant. J'aime beaucoup Chloé. Difficile de dire pourquoi. L'année dernière, ses cheveux étaient longs, cette année ils sont courts et elle me botte toujours autant. C'est donc pas une question de cheveux. Difficile à expliquer. Maintenant, par exemple, j'ai très envie de la serrer dans mes bras. Mais la peur qu'elle me repousse est si forte que je n'ose pas bouger le petit doigt. Finalement, pile au moment où son bus arrive et s'arrête en couinant, c'est elle qui agit. Elle m'embrasse carrément sur la bouche. « À demain, Jules. »«
À demain ?»
Le bus la mange, elle et quelques autres, puis s'en va en ronronnant. Je la quitte pas des yeux, jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue. Lorsque je fonce vers mon quartier, je marche pas, je vole. Je vole encore quand il se met à pleuvoir, j'en oublie ma capuche. Je vole toujours lorsque je longe l'ancienne usine réaménagée en médiathèque et traverse la place dont je n'ai jamais su le nom. Et puis j'atterris lorsque je le vois sur la route, juste à l'entrée du parc, aplati, écrabouillé sur l'asphalte. L'imprudent petit hérisson. Je m'approche et un sentiment de tristesse m'envahit.
Tu pouvais pas faire attention, je lui dis.
Tu savais pas qu'avant de traverser, il faut d'abord regarder à gauche, puis à droite?
Mais pourquoi personne n'apprend aux hérissons à traverser la route? Tout le monde s'en fout ou quoi?
Il ne pleut plus quand, deux rues après le parc, je prends l'étroit chemin qui passe sous la voie rapide. Ensuite, je coupe par le parking et j'entre dans la forêt d'immeubles. Là, un garçon sur un vélo trop petit pour lui fonce vers moi. Il s'arrête brusquement à une dizaine de mètres. Il mordit sa lèvre inférieure avec le regard de celui qui veut demander quelque chose mais qui n'ose pas. « Salut !» je fais. Cela suffit à l'encourager et en trois coups de pédale, il me rejoint puis roule à mes côtés au pas. « Salut !» il dit. « Je suis Kamel. » Puis il me raconte que le frère d'un copain de sa classe lui a parlé de moi. Il sait que je vais au collège à pied et c'est ça qui l'intéresse. « Tes parents, ils te paient pas le bus ?»«
Tu rigoles ?» payer le bus, alors que je peux aller à pied. Et t'as pas de vélo. Si, j'en avais un d'occasion, mais on me l'a volé quand j'étais en sixième. Bah, pourquoi tu fais pas pareil? T'en piques un et tu le repeins. Bah, je suis pas un voleur. Et de toute façon, je préfère marcher. Tu préfères marcher, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Vrai aussi qu'au début, j'étais terriblement jaloux de ceux qui prenaient le bus. Puis je me suis mis à aimer la marche, et maintenant mes cuisses et mes mollets, c'est du solide. J'ai même appris à apprécier la pluie, le froid, le vent. Pas de bus à attendre, pas de conversation pénible à supporter, et le loisir d'observer ce qui m'aurait échappé si j'avais pris le bus. La façon dont la peinture s'écaille sur les portes et les volets, une toile d'araignée tendue entre un mur et une gouttière, les noms parfois comiques sur les sonnettes, un hérisson écrasé. J'avance à mon rythme, les yeux et les oreilles grands ouverts. Je me sens comme un explorateur. Pourquoi tu me demandes ça, Kamel ? Ah, comme ça, à cause de ma mère. Je crois pas qu'elle est assez riche pour me payer le bus et quand j'irai au collège, mon vélo, là, il sera trop petit pour moi. Tu rigoles, ton vélo, il est déjà trop petit. Il se marre. Ouais, ouais, t'as raison. Soudain, il se marre plus. Son visage devient soucieux. Deux plis se creusent sur son front. Tu me montreras le chemin pour aller au collège à pied ? Je m'arrête, il freine brusquement et ses freins produisent un bruit proche d'un paix. T'es en quelle classe ? Je lui demande. Ben, au CM2. Quand tu iras en sixième, viens me voir. J'habite le bloc D au 9e. Oh, merci, t'es comme un frère, il me dit avant de s'en aller en pédalant à fond. Il se retourne pas. Je suis le seul élève à ne pas aller visiter le village du livre. À la place, je vais passer la journée à la bibliothèque. Je suis content, c'est l'endroit du collège où je me sens le mieux que chez moi, alors. Mais tout à l'heure, j'étais moins fière. J'ai eu un gros pincement au cœur quand j'ai vu Chloé s'engouffrer dans le bus avec les autres. J'aurais bien aimé voyager à côté d'elle. « Ça va, Jules ?» me demande Mademoiselle Léonard, la bibliothécaire. « Oui. » Elle s'assoit à côté de moi, sur la banquette, et aussitôt son parfum qui sent je ne sais quoi m'enveloppe. « Tu lis quoi ?»« Un livre sur les hérissons. »« Ah, c'est pour un travail particulier ?»« Non, c'est juste comme ça. »« Dites, mademoiselle, vous croyez que les hérissons savent que nous, les humains, on les appelle des hérissons ?»« Oh, je l'ignore, Jules. Pour savoir, il faudrait leur demander. » C'est pas bête, ça. Je reprends ma lecture, mais mon regard glisse sur les mots. Impossible de me concentrer. Je repense au petit hérisson écrasé. J'aurais aimé pouvoir lui parler. Je lui aurais expliqué comment traverser une route. J'aurais aimé lui sauver la vie. Jules ! Jules ! Hein, quoi ? Je fais complètement abruti de sommeil. Jules, réveille-toi ! Punaise, Manon, quoi ? Mais il y a Léo qui pleure et maman et papa se réveillent pas. Pfff, encore. Oh, je suis dégoûtée. Pour une fois que je n'entendais pas les sanglots de Léo, j'allume ma lampe de chevet et je reste un moment assis sur mon lit à me frotter les yeux avant de me lever. Puis, suivi de ma sœur, je vais écouter la porte de la chambre des parents où dort également le petit pleurnicheur. Je toque une fois, deux fois. Pas de réponse. Alors j'ouvre la porte et j'entre. Maman et papa dorment profondément. Ils ronflent. Le radio-réveil indique 3h08. Je contourne le lit jusqu'au couffin que je saisis par les poignets et transbahute hors de la chambre. Chut, je fais. Léo se calme un peu. Ses pleurs se transforment en petits hoquets saccadés et comiques. Nous nous installons sur le canapé du salon. J'allume la télé et l'image d'un paisible troupeau de zèbres apparaît. La tête d'un guépard émerge des herbes hautes, mais aucun zèbre ne l'a encore vu. Il broute sans avoir conscience du danger. Léo se remet à pleurer. « Oh, j'ai faim !» soupire Manon. « Ah ouais, bonne idée !» J'éteins la télé et nous migrons à la cuisine. Manon, qui a l'habitude, prépare un biberon et deux chocolats chauds. Moi, je tranche et beurre deux tartines de pain que je recouvre d'une généreuse couche de confiture. À la moitié de son biberon, Léo lâche un rot qui nous fait rire. Puis il s'endort d'un coup. Le calme est si grand que nos bruits de mastication résonnent dans la cuisine. On entend même le faible grésillement de l'ampoule du plafond. J'ai l'impression que ma sœur, mon frère et moi, nous sommes les derniers survivants de la planète. « Ça t'embête si je dors dans ta chambre ? » demande Manon. Je hausse les épaules. « Bon, comme tu veux. » Je la regarde. Je m'étais jamais rendu compte à quel point ma sœur a un beau visage. J'aime son expression triste et fatiguée. On range la vaisselle dans l'évier, puis tandis que Manon passe l'éponge sur la table, je transporte Léo dans ma chambre. J'aide ensuite ma sœur à déménager son matelas et nous voilà tous les trois dans la même chambre. Je trouve la situation comique, j'ai presque envie de rigoler. J'essaie d'imaginer la tête des parents quand ils se réveilleront. Ils verront que le bébé a disparu. Jules ?
Oui, chère sœur.
Bonne nuit ?
Bonne nuit, Manon.
Je me demande combien de routes et de chemins on doit traverser dans une vie. Des milliers, des milliards, peut-être plus, sûrement plus. Avant de sombrer dans le sommeil, je me promets d'apprendre à Léo tout ce que je sais. Pas question de le laisser se faire écraser, celui-là. Eh bien, c'était Le bébé et le hérisson de Matisse, aux éditions Thierry Magnier, collection Petite Poche.